super Adag à la piste. Bienvenue à toutes et tous. Donc je vais faire un exercice assez difficile, vous présenter le livre en question, qui est un dispositif un peu original, qui a été concocté par la Maison des écrivains de la littérature et par la bibliothèque de la Sorbonne, et qui a petit à petit évolué dans le temps. Donc c'est un dispositif en plusieurs étapes. Donc la première étape consiste à accueillir un auteur à la BIS, à la bibliothèque de la Sorbonne, et à lui...
C'est ça, oui, plus
quelques dizaines de kilomètres linéaires de collection. Donc nous accueillons un auteur et nous lui présentons l'ensemble de la bibliothèque. Nous lui offrons une séance d'immersion totale dans nos collections, nos pratiques, nos tortuosités, si je peux dire. Et donc les magasins, les souterrains. C'est pour vous faire rêver. La crypte. Nous n'avons plus la crypte, mais nous en avions une, en effet. Et donc dans cette masse d'informations, nous lui proposons aussi de le guider soit vers un élément de notre activité ou vers, le plus souvent, un ouvrage qui est dans nos collections ou un ensemble d'ouvrages. Et ensuite, il travaille secrètement de son côté. Et au bout de 2 mois, 3 mois, ça dépend des cas. En fait, au début, nous avions été très, très ambitieux. Nous donnions un petit mois aux auteurs et c'était vraiment très, très court. Maintenant, c'est un petit peu plus confortable. Cet auteur vient nous présenter un texte qu'il a créé sur le sujet de son choix. Et en fait, on le découvre en même temps que vous. On n'a absolument pas d'éléments, d'informations sur ce qui va être présenté. Et c'est chaque fois une surprise, une attente un peu impatiente, parce que vraiment, c'est chaque fois une découverte merveilleuse. Donc, je vais laisser, puisque la Maison des écrivains et de la littérature et la Maison des écrivains et de la littérature, à Sylvie l'honneur de présenter le travail de Hubert.
Merci Laurence Bobis de nous accueillir d'accueil. Mais Hubert, je ne te présenterai quand, non pas en présence de mon avocat, mais quand tu auras pris place, s'il te plaît. S'il te plaît, assieds-toi. Voilà. Donc, je vais oser vous présenter cet homme derrière cette chose. Alors, Hubert Haddad embrasse beaucoup de genres. Beaucoup de genres littéraires, de la poésie, du roman, de la nouvelle, du théâtre, de l'essai. Et Hubert Haddad est aussi peintre, pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Alors, je vais parler de lui assez succinctement, mais je suis heureuse de commencer par la revue Apulée, dont le numéro 4, c'est une revue annuelle, dont le numéro 4 paraîtra en mars, au Salon du Livre, le 14 mars, il y aura une présentation. Et pourquoi ? C'est parce que je suis très heureuse que ce numéro s'ouvre par un texte de toi, Hubert. Et tu y as placé en exergue une citation d'Edmond Jabès. Et si nous sommes ici en présence de toi pour le livre en question, c'est un petit peu aussi à cause de lui, puisque le livre des questions a inspiré cet itinéraire en bibliothèque avec la Sorbonne. Donc il y a la revue Apulée que tu diriges, qui est publiée par Zulma, où tu convoques énormément de voix de la poésie contemporaine, mais de romanciers, d'essayistes. C'est une revue très très belle. Donc auteur de genres nombreux, de romans. Pour les romans, je vais citer, et vous en avez certainement entendu parler, Les Premières Neiges sur Pondichéry, paru en 2017 chez Zulma, et Casting Sauvage en 2018. La plupart des livres d'Hubert, de romans en tout cas, ou nouvelles, sont publiés par Zulma. Son roman L'Univers, vous vous souvenez de ce titre, phénomène littéraire original, puisque roman dictionnaire, était paru en 1999, chez Zulma déjà, mais il est reparu en 2019 dans une édition augmentée. Palestine, paru en 2007, toujours chez Zulma, avait reçu le prix des 5 continents de la francophonie en 2008. Pour les nouvelles, Géographie des nuages est paru en 2016 chez Guérin, ce très bel éditeur à la collection Rouge, qui s'est beaucoup occupé de la montagne. Est paru donc chez Guérin en 2016, mais la nouvelle genre majeur dans l'œuvre d'Hubert Haddad n'est pas moins servie, puisqu'elle a donné lieu à un volume impressionnant, Nouvelles du jour et de la nuit, qui consistait en 2 coffrets de 5 volumes, chacun réunissant 60 nouvelles. Hubert Haddad a porté avec des auteurs comme Marc Petit, je suis heureuse de le nommer ici, mais aussi Georges-Olivier Château-Renaud, le mouvement dit de la nouvelle fiction dont vous avez certainement entendu parler. La poésie est un territoire qu'arpente tout autant Hubert Haddad. En 2016, il publiait « L'écre et les tris » chez Jean-Michel Place. Et pour les essais, et aussi pour le plaisir de dire ce titre que j'adore, je citerai « Comme un étrange repli dans l'étoffe des choses » paru à la très très belle maison d'édition La Bibliothèque en 2016. Bien des prix, autres que celui que j'ai cité plus haut, couronnent aujourd'hui cette œuvre foisonnante, elle-même forêt de l'écriture, comme aurait pu le dire Juan Goytisolo. La densité de pensée est attachée à une forme poétique très singulière, de laquelle le lecteur est invité à faire expérience pour revenir changer d'une telle lecture riche, ouverte, où les références se mêlent au langage pour faire du neuf, du très original. C'est de cet imaginaire à la fois limpide et touffu et nécessaire que se nourrit l'écriture d'Hubert Haddad, qui rend compte de notre monde au-delà du visible, en profondeur de champ, comme la profondeur d'un champ. Je lui laisse la parole pour découvrir avec vous vers quel continent il va nous entraîner maintenant, et je sais déjà que le livre qu'il a choisi en question a un petit peu voyagé. Merci. À toi.
Je trempe mon sac. En fait, j'en avais pris deux. Mais la première fois, je suis pas revenu. On m'a entraîné dans des labyrinthes, et puis tout d'un coup, je vois ça. Et il y avait aussi Faiseur d'histoire. Ça m'a plu. C'est pour une histoire indisciplinée. C'est un ouvrage fait par des historiens qui se problématisent. C'est quoi l'histoire? D'où parlons-nous? Mais finalement, je l'ai laissé de côté. Et puis j'ai gardé Philon d'Alexandrie, des Somnis. Vous en avez pour 40 minutes. Mais je peux aller plus vite. L'analogie versatile, ou les pérégrinations d'un rêveur de mots. Il faut avouer que je me repère difficilement. Codes, données et algorithmes ont vite fait de me dérober tout ou partie de l'univers. Obnubilé par la simple présence des êtres et des choses, j'ai toujours eu un doute sur le prédicat, l'objet visé, la proposition. Quiconque me questionne se métamorphose illico en point d'interrogation. Ce défaut de perception cognitive directe, j'aimerais l'attribuer à ce qu'on appelle un trouble déficitaire de l'attention, lequel semble remonter à la petite enfance lorsqu'il m'a fallu choisir de force entre deux langues en conflit territorial et affectif. Au demeurant, je nommais d'ordinaire aucun rendez-vous de chair et d'os, du plus anodin au plus redoutable. Cette manière d'entrave ou de handicap provoque à contrario chez moi une incoercible et un peu vaine soif d'universalité. Ne pouvant me fixer longtemps sur presque rien, par une espèce d'instabilité mnésique, je suis le plus souvent happé par une formidable centrifugeuse analogique en forme de tonneau des Danaïdes. On comprend sans doute que la poésie, au sens large, eût pu être pour moi, migrant sans héritage, un recours naturel face à la sainte logique armée de son épée, syllogismus, et flanquée de ses deux bons chiens, Veritas et Falsitas, courant après le lièvre Problema. Comme la représente une gravure de la Margarita Philosophica, qui n'est ni une pizza, ni une docte marguerite qu'on effeuille, mais la première encyclopédie latine imprimée en toute fin du XVe siècle, perle de sapience de l'humaniste Gregor Reich. Ce je ne sais quoi, qui n'a plus de nom dans aucune langue, que Tertullien concède au cadavre, et que l'on pourrait étendre au devenir noir, à l'invisible et obscur fardeau de l'oubli, me rend sporadiquement bègue et presque aphasique. La position du poète, entre expectative et inspiration, affaire ordinairement à sa carence identitaire. L'être nu, sans ce que le nid ancrage n'a de recours qu'au mouvement de l'air. Même contraint par le détail à la positivité, il marche sur les nuages sans s'étonner d'être plus léger qu'eux. Après Shakespeare ou Rimbaud, le « qui suis-je » plus que la rose. Et sans pourquoi. La métaphysique, à vrai dire, trouve sa source dans les plaines brumeuses du l'été, aux lèvres oraculaires du fleuve, à Mélès. N'est-ce pas Erle le Pamphylien qui, de retour des morts, laisse entendre dans le Phèdre que l'écriture ne saurait produire que l'oubli en reléguant la mémoire vive dans les tombeaux de papyrus et d'argile? D'un autre monde pourtant, celui des songes et de l'instant miraculeux, seul l'oubli nous rapproche. Et comment et comme un sommeil d'un milliard de siècles n'est pas plus long qu'un sommeil d'une heure, cela semblerait se passer à l'heure même de la mort. In momento inictu oculi, écrit le très réaliste Ernest Renan en métaphysicien alternatif. Convié à visiter les fonds de la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, riche de centaines de milliers d'ouvrages et de documents répartis sur plusieurs niveaux dans le cadre du cycle livre en question, maintenant bien rodé, avec pour mission de m'accaparer en lecteur transversal un élément de ses collections et d'en restituer in situ, quelques semaines plus tard, l'espèce d'ébranlement de représentations, d'hypothèses, d'intuitions, d'errements, voire d'impéritie qu'il aura pu me susciter en moi, comme une sorte de pierre angulaire offerte à la subjectivité par un total hasard déambulatoire qui ferait secrètement résonner de bas en haut le grand orgue de Babel. J'ai opté pour le clin d'œil du Kairos et me suis saisi du traité des Somnis de Philon d'Alexandrie comme d'un manuscrit trouvé dans une bouteille parmi une infinité d'autres bouteilles en forme de vaguelettes sur l'océan du sens, filant la métaphore, imagine-t-on, pareil au livre de sable borgésien, rouvert sur une révélation fugitive, engloutie à jamais dès qu'on tourne la page, les dunes mouvantes d'une bibliothèque à perte de sens, comment en effet se repérer au regard d'une énigmatique classification, dans ses subdivisions et ses tables de priorité. Pour atteindre tel ouvrage égaré, sous une maçonnerie de codes hiéroglyphiques entre la passerelle des Slaves, les cryptes dédaliques et la galerie Richelieu, j'ai moi-même assez peu fréquenté ces carrefours des rêves. Hypogée, ou jardin de l'esprit humain, ou des passe-murailles bagnoudes aux lisières éternelles, croyant retrouver le pays natal. Nul livre, en mon jeune âge, hormis un digest de la Bible hébraïque rangé au fond d'un bahut. Il eut d'abord le rêve de la bibliothèque, dans un monde sans mots, au puce de Bicêtre, dans les années 60. Je raconte un tout petit peu les préalables. Un vieux sage déballait ses cartons et pour quelques pièces, je repartais riche. À 13 ou 14 ans, quand la solitude vous confronte aux fins dernières, accumuler des rossignols dans de fragiles cageots de bois blanc péniblement empilés équivaut à rêver à la multiplicité des mondes habités en contemplant la nuit galactique, qu'elle est quasi esclave à la solde d'un perforin, c'était en panneau. Je chafaudais ainsi ma première bibliothèque avec ses cageots, à mi-chemin de la cage au cachot qu'on trouve empilé, déjeté aux tombées de rideaux des marchés publics. Simple caissette à claire-voie vouée au transport de ses fruits qui, de la moindre suffocation, font à coup sûr une maladie, vous avez reconnu, Cet objet, ajoute Francis Ponge, en précieux de l'autre siècle, Saint-Amand, et c'est son contemporain, est en somme des plus sympathiques, sur le sort duquel il convient toutefois de ne s'apesantir longuement. J'étais parvenu de mon côté à garnir ces fragiles cagettes censées durer moins encore que, citation, moins encore que les denrées fondantes ou nuageuses, de quantités d'ouvrages par un savant jeu d'appui. Cet ensassement périlleux était pour moi le paysage élu, parmi d'innombrables coucous, livres de poche et éditions populaires des grands classiques, des inconnus notoires, des stylistes à la truelle et au point de croix. Épigone, météore décadent, maudit irrévocable, petit maître au clin d'œil typographique singulier, tel Léon de Belze. Maurice Rollinat, je dis lire les névroses avant les fleurs du mal. Ou encore André Gaillard, quelques éditions rares, comme les lettres de quelques juifs à monsieur de Voltaire par l'abbé Guéné, en 3 volumes in octavo, Paris, Moutard, 1781. Découvert à mes pieds, non loin de l'hospice où fut interné le marquis de Sade. Et tous les génies ignorés qui le demeurent. Ni lu, ni occupé. Ni occupé, ni lu, ni compris aux meilleurs esprits que d'erreurs promises pour le Valéry. Les puces, alors, regorgeaient des Bourget, Maurras, Samain. On trouvait en masse Hugo, Lamartine, Vigny, Musset, Lotti, les Parnassiens, mais aussi Byron et Schiller, à l'occasion Nerval, Corbière ou l'autre Allemand. Adolescent, je suis entré dans la modernité avec Breton et les surréalistes. Tout s'est enchaîné, dès lors, et bien d'autres poètes d'un troisième convoi. Il manque un bout de phrase. C'est pas grave, j'ai terminé mon texte tout à l'heure avant d'arriver. Parce que je le raconte là. Venu du milieu le plus aride qui soit, et consacrément le plus rétif à l'acculturation. L'acculturation, vous savez ce que c'est. C'est pas de manquer de culture. Hein. Je n'osais prétendre à ce qui figurait pour moi le comble de la bonne fortune, être l'auteur de livres. Longtemps, j'écrivis des sonnets abscons en secret. Vers 18 ans, j'eus la chance de rencontrer d'autres poètes en herbe, et je pus avec eux fonder bientôt ma première revue. Vrai promontoire des songes, Promontarium Somni, un chef-d'œuvre, le 5e manifeste du surréalisme. Mais c'est de Victor Hugo. Un fanzine de faillite tiré à 5000 exemplaires, j'ai dû vendre à un solteur de Saint-Ouen, ma chère bibliothèque, de bric et de broc pour payer une partie des frais d'imprimerie. Agrégé à une quête exaltée, ces petits désastres de l'âge tendre se nimbent rétrospectivement d'un halo d'enchantement amer. Chateaubriand l'a formulé avec brio. Écoutez, les plaisirs de notre jeunesse, reproduits par notre mémoire, ressemblent à des ruines vues au flambeau. D'un certain point de vue, celui de la lecture de l'univers infini du livre, ma vie, ce chapitre en bibliothèque délaissée, et chacune des 3 ou 4 qui suivirent mon palais de cajot, fut l'arche d'une passion amoureuse jusqu'à la désunion ou le deuil, ces hauts murs, tout d'accès, de passes et de brèches que constituent peu à peu les rayonnages au gré des acquisitions. Je les abandonnais sans doléance, ne conservant que de rares fétiches comme la recherche que m'avait légué un frère aîné avant de partir à jamais. Et j'ai ainsi laissé en chemin quantité de désirs et de résolutions, les livres s'accumulant à une vitesse excédant mes aptitudes de liseur. C'est un château de mémoire qu'on perd avec sa bibliothèque, un grand navire aux voiles pliées, emportant au loin le centre même des choses. Pour moi, l'abandon était double, et le visage aimé se refermait sur des millions de pages, composites, jamais rangées, à part la poésie qui avait ses tablettes. Mon paradis, comme Bachelard et Borges l'imaginaient, plusieurs fois reconstitué sous un firmament neuf, précédait toujours les grands bûchers du temps. L'enfer vient fatalement après l'Éden, et tous les bienheureux iront voir au Styx pour rendre compte d'une éternité d'hémétique béatitude. Je vais vite parce que c'est pas le sujet.
dispersée, protéenne, offerte aux quatre vents, ma dernière bibliothèque ne m'emmure plus. Elle ressemble davantage à mes rêves. Même mes propres livres n'ont plus de berger. Pourtant, rien ne m'accompagnera plus fidèlement dans cette vie. Et je garde pour mes cajots empilés une tendresse de rescapé envers son radeau de naufrage, en admettant que savoirs et mémoires deviennent avec le temps matière de rêve, toute bibliothèque trop étriquée ou trop spacieuse pour l'âme ne serait-elle pas, en somme, une fiction de fiction? Par force d'emprise, devenu romancier, j'en inventais d'impossibles. Ainsi, de cette ville sans miroir, légende ou déambule sur une montagne monde, un peuple d'aveugles à notre image, conduit toute leur vie par des générations de chiens et pieurs, et dont la bibliothèque intangible fut mienne, à peu près au même titre que mon amas de cajots instables. On lit dans Luis Lambert une phrase digne du meilleur Gracq, lequel se risqua un jour à traiter ce cher Balzac de styliste en gros. Souvent, c'est Balzac, souvent j'ai accompli de délicieux voyages, embarqué sur un mot dans les abîmes du passé, comme l'insecte qui flotte au gré d'un fleuve sur quelques brins d'herbe. C'est donc entre les rives étroites d'un livre détourné, au hasard d'une déambulation dans quelques deuxième ou troisième sous-sol de la bibliothèque de la Sorbonne que je me suis laissé dériver, puisque la lecture est comme une nage au fil des mots, avec en perspective de grands paysages mentaux. Il ne m'a fallu, du volume 19, traduit par Pierre Savinel, de cette vieillissante publication en 35 tomes des œuvres de Philon d'Alexandrie, Paris aux éditions du Cerf, qu'un seul titre, Des Somnis, et quelques lignes parcourues au petit bonheur. Pourquoi être astronome, c'est-à-dire bavarder dans les nuages? Oh là, l'homme, cesse d'observer ce qui est là-haut pour t'occuper de ce qui est près de toi, ou mieux, pour mener une enquête impartiale sur toi-même. Traversant les millénaires, cette injonction d'un philosophe juif hellénisé, contemporain de Flavius Joseph et d'un prédicateur galiléen, né 6 ou 7 ans avant terme, m'a aussitôt sorti d'un songe. Il se trouve que je venais de recevoir une invitation à Alexandrie, grâce à mon ami Yacéa Pélascri, pour les premiers jours d'avril. Cette incidence liminale, très probablement, aura guidé mes mains. Vacant entre les murailles et m'émouvant alors d'un imminent voyage dans la vallée du Brahmapoutre, dont je reviens mal en point, d'où j'étais censé écrire ces lignes si je n'avais pas perdu mon ordinateur en transit à l'aéroport de New Delhi. Par chance, un signe retrouvé au retour de la SAM, j'aurais pu tout aussi bien m'arrêter sur le Kali Kirtana du chanteur Baoul et poète Ramprasad Sen, si bien sûr il avait été traduit et eu par suite figuré dans ses rayons, ou sur tout autre titre en coïncidence plus ou moins proche avec mes états mentaux. N'importe quel écrit de caractère dans les circonstances eût fait l'affaire. Il existe une certaine coprésence de l'entière conception livresque en chaque livre, un peu comme toute l'humanité en chaque homme. Ce qui fit dire joliment à Umberto Eco que si Dieu existait, il serait une bibliothèque. Archimède, savant grec de l'école d'Alexandrie, en concevant un moyen de soulever le monde, imaginait-il qu'avec le point d'appui d'une langue et le levier de l'analogie, on puisse s'élever soi-même à l'universel. L'inépuisable fond de l'universelle analogie qui fonde ou assied la poétique de Baudelaire déclinée de l'admirable Eureka d'Edgar Poe et des confessions opiacées de Thomas de Quincey. Nous y puisons tous, à chaque instant de notre sensibilité collective, depuis que des histoires se racontent, bien avant l'épopée de Gilgamesh, et tous les trésors disparus de la bibliothèque royale d'Assurbanipal, d'un certain point de vue, défendu avec verve par Rémy de Gourmont, chaque vocable fait métaphore, et tout s'entend et se conçoit par la comparaison. On se souvient des visions d'Oxford, en citation perpétuée, au chapitre 8 des paradis artificiels. Qu'est-ce que le cerveau humain? Sinon un palimpseste immense et naturel. Mon cerveau est un palimpseste, et le vôtre aussi, lecteur. Des couches innombrables d'idées, d'images, de sentiments sont tombées successivement sur votre cerveau, aussi doucement que la lumière. Il a semblé que chacune ensevelissait la précédente, mais aucune en réalité n'a péri toutefois. Entre le palimpseste qui porte, superposée l'une sur l'autre, une tragédie grecque, une légende monacale et une histoire de chevalerie, et le palimpseste divin créé par Dieu, qui est notre incommensurable mémoire, se présente cette différence, qui dans le premier, il y a comme un chaos fantastique au secret du parchemin cervical, où s'entraînent et se combinent par manière de clinamen les cristaux et les cendres des impressions sensibles. Les anciens de longue date ont élaboré maintes genèses et cosmogonies avec toujours cette différence abyssale entre efflorescent kaléidoscope humain et insondable palimpseste divin, comme si l'ensemble des réalités sensibles n'était que le très fugace reflet quantique d'un clin d'œil de l'incréé ou d'une cyclopéenne coruscation du néant, cette sorte d'égalité déviée du vide avec lui-même. Faire comprendre, suggère Carl Gustav Jung, c'est bien souvent établir une analogie entre un fait connu et un fait nouveau. Ainsi procéda Philon, le juif d'Alexandrie, qui s'efforça de déchiffrer le sens caché des cinq rouleaux de la Torah avec l'aide de Platon et de sa théorie des formes intelligibles. À cheval sur deux airs, sa vie et son œuvre largement conservées campent l'extrême tangence du judaïsme et de l'hellénisme. Il ne connaissait, dit-on, que la Septante, la version de la Bible traduite en koiné grec vers 270 avant Jésus-Christ, au temps du roi macédonien d'Égypte Ptolémée II, Philadelphe. Sur l'initiative d'un ex-tyran d'Athènes en exil, Démétrios de Phalère, le fondateur de la bibliothèque d'Alexandrie. D'après ce qu'en dit la fameuse lettre d'Aristée à Philocrate, datée du 1er siècle avant Christ. Une légende propagée par Philon raconte que les 72 érudits cooptés par le grand prêtre ailé Hazard auraient eu mission de traduire, chacun de son côté et dans son intégralité, le Pentateuch, afin d'en confronter les versions et d'unifier ainsi au mieux la traduction finale. À l'heure de la confrontation, les traducteurs représentatifs des 12 tribus d'Israël ne purent que louer l'inspiration divine plutôt que leur science, en constatant la parfaite similitude de ces 72 traductions. Philologue, théologien aventureux féru de cosmologie, Philon aurait-il pu lire, avant leur destruction, les quelques 700 000 ouvrages, volumens, tablettes de cire, codex, souvent confisqués aux navigateurs en rade, que recelait la bibliothèque au meilleur de sa forme, grâce à quelques pactes d'immortalité avec le Daimon à Donald ou ses logoi, à raison de 3 manuscrits par jour, sachant qu'on lui donnait 20 ans au premier Noël clandestin de la chrétienté, il eut achevé ses lectures au milieu du 7e siècle, ce qui eût été à la rigueur envisageable si, comme le prétendent certains exégètes, la bibliothèque n'avait été détruite en son entier après maint dommage et raccommodage, ni par César, pourchassant Pompée, d'ailleurs il n'était pas né, ni au IIIe siècle par l'empereur Aurélien et la reine de Palmyre, ni même à la suite de restrictions budgétaires catastrophiques que tout le monde connaît, ni davantage par une légion de moines chrétiens fanatiques au IVe siècle, lesquels, en passant, dénudèrent et lapidèrent à mort au moyen de coquilles d'huîtres la merveilleuse et très savante Hypatie, mais bien en l'an 641, sur l'instruction du calife Omar lors de la conquête arabe. Une pareille épreuve lui rendit considérablement plus docte. Toutefois, Philon n'en aurait pas moins été sujet à l'oubli, cet art divin. Prôné par Michel Fardoulis Lagrange, un grand poète omis des temps présents, en lecteur de Nietzsche des considérations inactuelles, qui régla, comme par anticipation, les prétentions de l'homme augmenté. Citation. Un homme qui serait incapable de ne rien oublier et qui serait condamné à ne voir partout qu'un devenir, celui-là ne croirait pas à sa propre existence. Il ne croirait plus en soi. Il verrait tout se dissoudre en une infinité de points mouvants et finirait par se perdre dans ce torrent du devenir. Finalement, en vrai disciple d'Héraclite, il n'oserait même plus bouger un doigt. Mais Philon croyait à la réminiscence et n'aurait su faire table rase de sa conscience. Pour lui, le monde sensible, notre demeure, est la porte à la fois close et ouverte au monde intelligible, au vrai ciel que transcende inexplicablement l'ineffable lieu sans lieu. Gars, explique-t-il de cent façons, il n'est possible de se représenter aucune des réalités incorporelles autrement qu'à partir des corps. Leur repos a donné l'idée de lieu, leur mouvement celle de temps, et le revêtement extérieur qui leur fait comme une sorte de robe est à l'origine de l'idée de point, de ligne, de surface, bref, de limite. C'est donc analogiquement que le monde intelligible est conçu, à partir du monde sensible, qui est en quelque sorte la porte. Ainsi, selon lui, grâce au modèle archétypal qu'il a façonné, ce monde changera de nom quand les portes et les murs de la perception sensible disparaîtront, laissant l'âme nue, dépouillée des voiles d'Isis, dans l'immuable beauté de cette neuve faculté de l'incompréhensible compréhension dont s'éprendront les gnostiques, comme arrachés d'un tombeau, sectateurs vertigineux en quête d'hypostase. Tout à son extraordinaire intuition, Philon assimilait ou comparait Moïse au Logos, Graal de la raison divine, diamant cosmogonique, qui sur toute chose diffracte le feu de ses archétypes comme sur le mont Horeb, Piracanta ou Mûrier sauvage, le buisson ardent d'où monte l'appel théophanique. Au tout début du 1er siècle, concilier Moïse et Platon dans une synthèse inédite, c'est révolutionner le judaïsme, ébranler le pouvoir des Sadducéens, la secte des grands prêtres, avant que la destruction du second temple concrétisent leur disgrâce en ouvrant l'ère rabbinique de la grande diaspora et le questionnement talmudique infini. Mais revenons à ce petit traité cueilli comme une fleur des chemins, tout en rêvassant à la finalité malherméenne du monde. Je dis une fleur, et hors de l'oubli où ma voix relègue aucun contour, en tant que quelque chose d'autre que les calices sus, musicalement se lèvent, idées mêmes et suaves, l'absente de tout bouquet. Revenons à ce Desomnis de Philon, mis au point une herméneutique divinatoire à partir des rêves actifs dans le livre des livres. Le déchiffrement, son éclairement concomitant, fait un mélange d'adhésion, de plaisir critique et de défiance, et l'espèce d'interprétation digressive qui s'ensuit, de commentaires sans cesse approfondis, c'est le mouvement même de la lecture, qu'il soit intime ou explicite. Toute bibliothèque, et peut-être chaque livre dans son secret fractal, remonte à nous le grand palimpseste de l'humanité sans fin perdue et retrouvée, tout ce qui fut chanté, écrit et pensé depuis Sumer, et la vallée de l'Indus, brouillard monté, versez vos cendres monotones, afin que le jour pointe et que l'œil s'éclaire. Philon, le rationaliste visionnaire, l'exégète judéo-platonicien, connaissait assurément l'organon d'Aristote, où fut élaborée pour la première fois une logique de l'interprétation des textes fondée sur l'analyse sémantique, la réflexion contradictoire, la distinction des 10 genres de l'être, de la substance et de ses 9 accidents. Chez Philon, l'allégorisme ne souffre pas le doute. C'est une poétique pré-talmudique, tout empreinte d'hellénisme, sur un mode presque familier, émaillé de bel esprit, où s'élèvent les métaphores comme des comètes dans l'azur profond. 4 sens seront attribués plus tard à la Torah, dont l'étude est censée occuper chaque instant libre du Judéen dépossédé de sa terre natale. Longtemps après la chute du second temple, littéral, pécha, allusif, remes, parabolique, drash, et initiatique ou mystique, sod, 4 sens, dont l'acronyme hébraïque donne pardès ou paradis, selon l'ultime interprétation propre à la Kabbale. Philon d'Alexandrie, qui s'amuse des docteurs de la loi à gripper au premier sens, cultive par précédence le troisième, l'allégorique, à la lumière des idées. Les autres sens préexistants néanmoins dans la fibre intuitive de l'auteur. Et rien ne s'y prête mieux que les rêves écrits par retour de fiction dans le grand songe diffracté et convergent des Écritures. Sa méthode s'inspire d'une pratique magique ancestrale, bien ancrée en Égypte, religion illustrée, presque un art littéraire chez les Grecs. L'oniromancie décline les augures et fomente la protection des puissances. Le Platon du mythe de la caverne se profile métaphoriquement dans l'Odyssée. Le pays lumineux des rêves, de la réalité présente, dira Artémidor, l'auteur de l'onirocritique, dont le nom sonne comme un vers de Nerval. Ne se projette-t-il pas au seuil ombreux du royaume infernal? On lit aussi dans Homère un songe de source divine, mais venu dans le sommeil. Les eidolons, images ou doubles spectraux, simulacres, liant nos parages à l'autre monde, et que les dieux envoient auprès du dormeur, entre les deux portes d'Hypnos, frères jumeaux de Thanatos, l'une ouverte aux chimères, l'autre donnant sur l'avenir et ses révélations. De toutes parts accourt la race des songes qu'enfante la nuit, apprend-on dans la théogonie d'Hésiode, et dans l'Énéide, par la bouche d'Anchise, il y a deux portes du sommeil, l'une de corne, livre une sortie facile aux ombres réelles, l'autre d'un ivoire blanc et poli, reçoit les rêves fallacieux que les enfers dépêchent sur terre. Après des millénaires, la clé tournante des analogies, d'Eurydice à Aurélia, poussera Gérard de Nerval sur les pas d'Orphée, qui éternellement se retourne, puisque, rappelle-t-il, tout vit, tout agit, tout se correspond. Au mascaret des flux mythiques, là où le fleuve de l'oubli se mêle aux eaux surnaturelles de la mer Rouge, l'allégorisme sémito-hellénique de Philon s'empare des songes prophétiques d'Abraham et de Jacob, ou des rêves autolâtres de Joseph, et les décrypte du point de vue du Logos, interface d'Adonai et du Démiurge, qui nous délivre des messages au su et à l'insu du sommeil paradoxal et à l'instar des divinités grecques ou égyptiennes. Avec Philon, le rêve n'est pas un accomplissement du souhait, mais de promesses. Et son interprétation serait plutôt la voie royale qui mène à la prescience de la divinité. Contenus manifestes et latents, au demeurant, sont déjà bien inscrits dans le récit onirique déconstruit avec les outils affilés d'une herméneutique hybride. Chaque anecdote du songe est un symbole, une figure du dit oblique, comme eût pu l'exprimer Montaigne, dont j'inscris en bonne enseigne l'épigraphe. Mes fantaisies se suivent, mais parfois c'est de loin, et se regardent, mais d'une vue oblique. Il faudrait retranscrire chaque allégorie et son commentaire, à commencer par l'échelle rêvée de Jacob, très énigmiquement surnommé l'athlète de la vertu, et que les âmes parfaites des anges, c'est le goy immortel, empreinte indéfiniment en intercesseur de la divinité. Plus près de nous, qu'est d'autre l'échelle où montent et descendent les paroles mystérieuses, sinon l'âme, sinon l'existence et l'histoire humaine. Chez le patriarche Laban, qu'elle exploite, Jacob voit en songe un troupeau de brebis, tout blanc, moucheté et tacheté de bleu cendré. Par principe insoucieux du sens littéral, Philon brode sur cette image sa théorie du logos. Par la parole divine, l'ineffable franchit la muraille des sensations et le monde apparaît transfiguré, vraie broderie d'un divin artisan, patient en miséricorde. Que les songes soient envoyés par Dieu, à rebours des simples rêves au bureau que subissent Joseph et Pharaon, ou encore le grand Jean Chanson étourdi du vin mauvais des vignes de Sodome, nous l'apprenons en tout lieu du monde. Cependant, le lieu que Jacob rencontre est celui d'une raison transcendante, laquelle est sans lieu, la divinité englobant toute chose et ne se laissant cerner par rien, sinon par effet d'optique, illusion ou transport. Dans ce tissu entièrement brodé du monde sensible, où l'homme se découvre comme tel par cette seule raison, et le partage du manteau de la parole. Faut-il dénigrer les sensations, ces filles de l'entendement, ces filles de joie pour l'âme, renchérit Philon ? Vous s'en accordez en juif hellénisé, sans contrainte romaine, sous contrainte romaine, car les énergies de l'âme se détendent dans leur fréquentation. L'essentiel étant de se défier des ennemis du logos, qui, dixit Philon, change la belle pièce d'argent de l'âme en petite monnaie qu'il dépense lamentablement. Car tout est affaire d'âme au gué du fleuve des sensations si ténébreusement lumineux. Il nous le répète à loisir en disciple janusien de Moïse et de Platon, car en fait, lorsque nous ne sommes plus capables de vivre dans la fréquentation des très saintes idées, ces images immatérielles, et que nous prenons une autre direction pour changer de région, nous nous aidons d'une lumière différente, celle de la connaissance sensible, qui au regard de la sainte raison est parfaitement assimilable à l'obscurité, aux ténèbres. Quand cette lumière-là surgit, elle tire du lit, pour ainsi dire, la vue, lui, et aussi le goût, l'odorat, le toucher, tandis que la prudence et la justice, la science et la sagesse, qui étaient bien réveillées, elles les endorment. Mais qu'est-ce que le corps humain, pour Philon, de la tour, du limon modelé sur des rives illusoires, une fausse tombale en transe? Toute une fantasmatique des trous, niches et cavités laisse songeur, comme un reliquat de pensée magique. Citation. Notre corps, déclare-t-il sans oblique en bâge, a été en quelque sorte creusé pour recevoir les organes des sens. Et chaque organe est devenu comme le trou à affecter à un sens dans lequel le dernier fait naturellement sa tanière. De quoi dessert-il exactement ? D'un terrain de golf ? D'une tête de lotus, de la pâte à gruyère, la tripophobie entre-t-elle dans la catégorie de ces maladies d'amour diagnostiquées par Avicenne? Il n'empêche que l'apport de Philon d'Alexandrie, de la pliure des deux airs d'où il parle, dans le réseau de coordonnées historiques et civilisationnelles qui sont les siennes, semble à tout point de vue décisif, aimé des dieux, Alexandre meurt jeune à Babylone en 323 avant Noël. Avec la partition du vaste empire macédonien entre ses généraux, de l'Anatolie aux rives de l'Indus, débute l'ère hellénistique. La part asiatique et moyen-orientale du monde connu se convertit allègrement au symbole et au mythe de l'âge d'or, dont l'autre part romaine et quitte des rois étrusques a depuis longtemps adopté et adapté les emblèmes grecs, cela bien avant d'en tirer un parti impérial. Un seul peuple assez lettré pour en porter témoignage freine ou contrarie cette assimilation. A priori non létale, au profil hellénistique, malgré son pouvoir d'enchantement et les lois d'attraction et d'interaction culturelle, la Judée n'est plus alors qu'une contrée aux confins du vaste royaume séleucide taillé sur le cadavre de l'Empire perse. En 170 avant Christ, Antiochos IV, Épiphane, pille le temple de Jérusalem, bientôt dévolu à Zeus, et lance un édit de persécution contre le judaïsme et les judéens. En témoigne le livre de Daniel, bouillonnant d'allégories annonciatrices. Les prophéties depuis Jérémie ne sont jamais que des enchères sur l'avenir laissées à la libre interprétation des pouvoirs religieux successifs. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Je levai les yeux et voici, il y avait un homme vêtu de lin et portant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps semblait de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux avaient l'éclat des flammes, ses bras et ses jambes étaient comme polis dans les reins et le son de sa voix s'amplifiait des échos d'une multitude. Tout fait source à l'historicité, les prophéties, les songes et même les annales. Né en 37 à Jérusalem, l'historiographe aventureux Flavius Joseph, transfuge, vendu à l'empereur Titus et auquel certains attribuèrent le quatrième livre des Maccabées, déclare tout rondement. En présence de ces prédications de Daniel, il me semble que cela pèche singulièrement contre la vraie doctrine, qui prétend que Dieu n'a aucun souci des choses humaines. Car si le monde se dirigeait d'une manière automatique, nous n'aurions pas vu toute chose s'accomplir selon sa prophétie. Dans ces antiquités juives, du moins jusqu'au règne d'Alexandre, Joseph paraphrase la Bible depuis la Genèse sur un mode historico-héroïque. Imagine-t-on la Mahabharata, ou le livre des monts et des mers, traduit ou transposé scrupuleusement en traité d'histoire séculière. Souverain d'une mosaïque des cités et des peuples, Antiochos IV hellénise donc la Judée et profane allègrement le temple au point de le consacrer à Zeus et d'y faire sacrifier des porcs. La Torah est brûlée, la circoncision interdite. On extermine tous ceux qui refusent le joug grec. Soucieux d'unité, le roi syrien vise l'éradication du judaïsme. Mais la révolte héroïque des Maccabées relève Jérusalem, tandis que le royaume séleucide se délite et s'effondre. Rome y étendra sa domination moins d'un siècle avant le sacre d'Octave. Tout est en place pour le changement d'ère. L'époque est au martyr du grec ancien Martus, témoin. Avec sa fosse au lion et sa fournaise où trois enfants sont jetés, le livre de Daniel abondait en saints miracles. Et le dernier scribe de l'ultime chapitre reprend au compte du judaïsme les antiques croyances sumériennes en l'immortalité. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. En son livre datant du 8e siècle antérieur, le prophète Osée annonçait déjà la résurrection des corps. Au bout de 2 jours, il nous sera rendu. Il nous aura rendu la vie. Au 3e jour, il nous aura relevés et nous vivrons en sa présence. Au temps de Philon, en Judée comme dans l'ensemble du monde hellénistique, repris en main par la Rome impériale, les conversions de païens éclairés viennent renflouer les rangs du peuple du livre réduit par les bains de sang des persécutions, autant que par sa vocation élective. Près d'un 1/10 de la population de l'Empire, dit-on, se serait conformé de près ou de loin à la religion de Moïse, avec ou sans rite de passage. Le rite de passage, c'est la circoncision. Ce prosélytisme paradoxal, à une époque férocement babélique, s'explique doublement par l'agonie prolongée mais fatale du dieu Pan et la grande mutation au sein de l'élite juive cultuelle pénétrée d'hellénisme. Le messianisme biblique, jusque-là indifférent à une quelconque vie après la mort, s'enflamme dans l'aspiration au salut sur terre et dans les cieux. Les Hébreux n'aspiraient qu'à la pérennité du culte sur une terre élue, et leur Sheol, celui des juges et des prophètes, ou Saül, à la consulter l'ombre de Samuel, ne valait pas mieux que les limbes sumériques. Agrandi par Hérode le Grand et son petit-fils Agrippa Ier, le temple de Jérusalem entrouvre les portes d'un nouvel Éden, que sa destruction prochaine ne fera qu'exalter à l'ombre des vestiges théâtraux du paganisme. En Canaan, des Esséniens aux Pharisiens, les sectes intriguent pour l'immortalité. Capitale de la diaspora, Alexandrie rayonne sur la Méditerranée, conjuguant l'espérance et la science, Jérusalem et Athènes. Par-delà les siècles, Platon et Pythagore délivrent la Torah du Sanhédrin, exclusif par l'entremise du démocrate et anti-esclavagiste Philon, fer de lance d'un judaïsme éclairé, ouvert au monde, malgré l'hostilité des Grecs, alexandrins, de haut rang et des Romains idolâtres qui fomenteront des émeutes dévastatrices à l'encontre des nombreux proseuques de la cité. En métaphysicien, doublé d'un casuiste enjoué plus qu'en mémorialiste, Philon témoigne du chaînon manquant entre 2 espaces organiques de pensée, jusque-là imperméables l'un à l'autre, voire antagoniques. Par la réminiscence, l'âme immortelle qui a connu, oublié et reconnu toutes les expériences sensibles imaginables contemple le monde intelligible dont elle est issue. L'écriture de Philon nous le saisit à chaque page. L'âme a quitté sa demeure céleste et elle est venue habiter dans le corps comme dans un pays étranger. Le porte-voix de Socrate a bien connu les mystères. Cette initiation, dont il est permis de dire qu'elle mène à la béatitude totale, lit-on dans son Phèdre. Comment accorder l'âme, l'anima des Grecs anciens, cette respiration, ce vent, décliné du radical sanskrit, ana, cet esprit délivré, s'il se peut, de son animalité, au nefesh, au souffle de vie des Hébreux, à cette âme de la chair que le sang véhicule, sans perdre en chemin l'immortalité, sinon par la résurrection des corps. Tout savoir est cousu du fil blanc de ses lacunes. Ce qui autorise l'extrapolation, la paraphrase et la glose. Tout comme Flavius Joseph, Philon n'ignorait pas l'ascétisme mystique des Esséniens, évoqué dans son libelle, Quod omnis probus liber sit, l'homme probe, étant tout libre. Mais il méconnaissait sans doute l'existence du mystérieux Nazaréen qui pourtant fera sa gloire posthume en pseudo-apôtre à son insu, une fois la masse d'écrits néo-testamentaires déduite de la portion congrue du Nouveau Testament par la Nouvelle Église. Né lui-même à Alexandrie, 2 siècles après Philon, sur les rangs du stoïcisme et du platonisme, le pionnier de l'exégèse biblique chrétienne lui a beaucoup, presque tout, emprunté. jusque, dirait-on, dans même son aspect physique. Pourtant, il n'a jamais vu. Cet Origène, pour qui même les astres ont une âme, lancé par la voix du maître juif, à peine dévié d'une octave. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Clément d'Alexandrie, Ambroise de Milan, Augustin, tous les pères de l'Église, s'appuyèrent sur l'œuvre à peu près indemne de Philon, tandis que le judaïsme orthodoxe, sur la défensive après la destruction du Second Temple et la conversion de l'empereur Constantin à la nouvelle foi, l'oublie soigneusement, tout à son ralliement à l'immatérialité de la parole, talmudiste à la face, comme imprimé dans la Torah, et kabbaliste chaque jour à l'étude des livres de la splendeur et de la création, pour que dans la lumière et l'écho sans fin des voix pieuses se découpe comme une figure d'attente le temple détruit, cette reconstruction fidèle et pourtant inaccessible, bâtie de siècles et d'instants par manière de création continue. Mais je range mes crayons et m'apprête à rendre mon livre. C'est vrai que je n'ai pas donné signe, il fallait que je le rende le 7. Quoi de plus admirable que l'ineffable harmonie des sphères célestes ? Citation. Quoi de plus admirable que l'ineffable harmonie des sphères célestes, que le retour périodique des vents qui fécondent la terre ? Quoi de plus pur que la lumière du jour, de plus noble que l'homme ? S'exclamait le saint patron des gardiens de prison, l'Alexandrin Hippolyte, premier antipape revêtu de l'armure d'immortalité. Voilà un fier adieu qui demande accommodement. Les hommes sont des animaux d'espèces diverses, en guerre pour leur territoire de chair et de fumée, et qui, au crépuscule, s'apaisent et se désaltèrent ensemble autour d'un point d'eau, pareil à leur humanité. Les symboles, les émanations de l'un aux multiples, l'activité bienfaisante de Dieu, nous voudrions bien y croire. Rien ne naît dans la crise, disait aussi le bon Renan. Des 40 règles de la religion et de l'amour que proposa au XIIIe siècle Shams el-Din Tabrizi, le maître soufi de Rumi, je retiens la première. La manière dont tu vois Dieu est le reflet direct de celle dont tu te vois. Si Dieu fait venir surtout de la peur et des reproches à l'esprit, cela signifie qu'il y a trop de peur et de culpabilité en nous. Si nous voyons Dieu plein d'amour et de compassion, c'est ainsi que nous sommes. Et peut-être la dernière, comme l'a transcrite Elif Shakaf. Une vie sans amour ne compte pas. Ne vous demandez pas quel genre d'amour vous devriez rechercher, spirituel ou matériel, divin ou terrestre, oriental ou occidental. L'amour n'a pas d'étiquette, pas de définition, il est ce qu'il est, pur et simple. L'amour est l'eau de vie et un être aimé est une âme de feu. L'univers tourne différemment quand le feu aime l'eau. Disons pour conclure vraiment que la seule religion qui m'agrée n'est assurément pas de ce monde, hormis le bonheur d'être ensemble. Qui perd sa terre, perd sa tombe, mais gagne un petit coin de ciel. Car nous aimons bien, nous autres poètes, bavarder dans les nuages. Merci.
Corps et âme dans cette proposition.
Ne vous inquiétez pas, je vous rends le livre.
Le symbole de l'institution.
Mais il y en a 35, parce que son œuvre à Philon a été préservée. Pas comme la mienne. Je me perds tout, moi.
C'est une composition interrogative. Vous la relancez la question de. Qu'est-ce qu'une bibliothèque ? Est-ce que c'est un cerveau, un palimpseste, Dieu ? Oui. Et vous faites ça en vous tenant debout, avec un engagement physique. C'est vrai que les bibliothèques, c'est aussi...
Mais nous avons tous un engagement physique, même quand nous sommes écroulés sous terre. Ouais. Forcément, nous sommes que physiques face à l'altérité. Donc nous sommes toujours physiquement présents, et celui qui est à 1000 pieds sous terre, il est toujours là si finalement il a une idée du monde et de l'altérité. Il faut pas s'inquiéter. J'aurais pu être complètement couché sous la table, hein, et puis ça aurait été pareil. Ça aurait été pas mieux, mais ça aurait été pareil. Donc vous, il y a pas de...
Merci.
Merci à vous. Merci. Je suis content de voir tous ces visages. Il y en a beaucoup que je ne connais pas. Et quelques-uns que je connais bien.
Je voudrais dire aussi, pour ceux qui ont découvert ce texte d'Hubert comme nous, qu'il a pris des raccourcis. C'est ce qu'il nous a dit avant.
Ah oui.
Ah oui. C'est génial.
Il y a plein de raccourcis, sinon vous seriez là demain matin, on aurait pris un petit déjeuner ensemble.
Mais ça va devenir un texte dans un livre, parce qu'on publie les textes l'année d'après, et là vous aurez toute la place que vous voulez pour développer.
Alors je ne développe pas un petit peu, par contre. La place aux autres.
Oui, c'est un point important, effectivement. Ça, c'est une évolution de notre dispositif, le rassemblement des textes d'une saison au sein d'un ouvrage. Alors, on en a fait qu'un pour l'instant, mais.
Là, vous êtes sur le dossier.
Voilà. Donc, dans un ouvrage qui s'appelle Des écrivains à la bibliothèque de la Sorbonne. Pour,
tout simplement.
Voilà. Parce que le livre en question était peut-être pas assez.
Oui, on nous a dit que le livre en question, comme intitulé pour un livre. Ça n'allait pas du tout, les personnes allaient imaginer que ce n'était pas un livre de littérature, mais plutôt un livre d'économie des bibliothèques. Ouais. Comment classer
On va le mettre dans la bibliothèque professionnelle.
Voilà, donc ton
texte. D'ailleurs, pardon, c'est intéressant, mais quel est le titre de ton texte là?
Ah, le titre de mon texte, il y a un titre. Ah. Je vous l'ai dit, non?
Non.
Alors. L'analogon versatile,
ah oui, si,
ou
si,
les
si,
pérégrinations si. D'un rêveur de mots. Mais c'est pas mal non plus l'autre. J'aurais pu. Là, tous ces historiens qui s'interrogent, qui se demandent de quoi ils parlent, moi, en tant qu'auteur de fiction, j'ai eu plein d'interrogations, de sujets, mais non, c'était filant. Mais c'est vrai que. Je devais aller à Alexandrie. Peut-être j'irai un jour. Pourquoi pas? Probablement, il y a des érudits secrets qui retrouvent la vraie bibliothèque d'Alexandrie quelque part dans une structure du temps comme ça, perdue. Et on ne sait pas, hein, on ne sait rien. La docte ignorance.
Merci. Alors, on vous a distribué le programme. La prochaine personne qui va se prêter à ce jeu est avec nous, c'est Lina Msalet, qui est là. Qui est en mars, qui a déjà fait la visite. Il a fait la visite le même jour que Hubert.
Et c'est elle qui va prêter à la prochaine. C'est vrai, on est ensemble dans les souterrains.
Alors, est-ce que vous avez des réactions? Sinon, on peut prolonger autour d'un verre. Dans la salle qui est juste à côté.
Merci.
Et les livres du Baradad que nous. Une partie des livres que nous avons à la bibliothèque sont ici, si vous voulez les amener.
Je vais faire.